Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Nous allons ouvrir notre Bible ce matin. Et je propose donc un message que j'aimerais dédier à tous ceux et toutes celles qui sont tourmentés, ou peut-être même une situation qui les rend malades, dans le doute de savoir avec certitude si Dieu leur a pardonné ou non leur faute, leur péché. Voilà, c'est ce que j'ai à cœur finalement de développer et de partager ensemble, et en parlant, en passant naturellement par toutes les agitations de la conscience, toutes ces perturbations au niveau des pensées qui quelquefois peuvent nous obséder, de savoir si véritablement Dieu est un Dieu qui pardonne, qu'il nous a pardonné dans notre histoire, notre passé, et de pouvoir sortir de cette tourmente ou de cette existence de culpabilité. Alors pour ce faire, j'aimerais justement ouvrir un passage de la Bible. Il y en a de nombreux d'ailleurs sur le sujet, puisque le pardon est au cœur même du message de la bonne nouvelle, parce que Dieu pardonne. Dieu est venu pardonner les hommes à travers la personne de Jésus-Christ. Et puis nous devons nous souvenir qu'à la croix du calvaire, dans les ultimes moments que Jésus a connus avant de donner sa vie, eh bien il fera monter cette prière qui est au bénéfice de tous les hommes à travers tous les temps, toutes les générations. C'est-à-dire qu'il dira tout simplement, s'adressant à Dieu son Père, « Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Donc, nous savons une chose, c'est que cette prière, elle est exaucée. C'est une prière qui s'adresse au monde entier, et elle est encore valable pour nous aujourd'hui. Et je rappelle, peut-être y a-t-il des auditeurs qui sont perturbés, troublés, qui ont du mal à se défaire peut-être d'une faute, ou d'un passé qui les tourmente depuis peut-être des mois, depuis des années. Alors nous avons un texte qui est révélateur, c'est dans le livre du prophète Michée. Nous allons le partager, je vais le lire, le rappeler, il est très bref, très court, mais qui nous montre à l'évidence que Dieu est avant tout un Dieu qui pardonne, un Dieu qui a pardonné et qui pardonnera autant que les hommes se tourneront vers lui pour avoir la paix intérieure, parce que nous savons que l'Évangile nous le dit, le prix a été payé. Ce n'est pas nous qui pouvons nous affranchir de ces tourments, de cette culpabilité, mais la Bible est très claire, l'Évangile est fixé, axé, nous pourrions dire, sur le pardon de Dieu à travers ce que Jésus a demandé pour chacun d'entre nous, pardonne-leur, et nous croyons avec assurance que Dieu nous a pardonné. Alors, nous allons prendre dans l'Ancien Testament, donc, je vous ai dit, le livre de Michée, au chapitre 7, et je lis ce passage qui est dédié à notre réflexion aujourd'hui. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage ?» Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté d'Abraham. Et le verset que je retiens, que je mets là en relief, c'est cette parole, tout simplement, « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Alors, il s'agit naturellement d'une métaphore, cette image qui illustre une vérité, naturellement biblique, évangélique, et du propos que nous entretenons maintenant. Cette image, c'est celle où Dieu jette. Le verbe « jeter », c'est « se débarrasser ». C'est tout simplement, il évoque quelque chose de spontané et de dire, quand on jette, on ne reprend pas. En quelque sorte, c'est jeter On connaît naturellement l'utilisation de ce verbe, hein, parce qu'il préside à pas mal de nos actions lorsque nous voulons nous débarrasser, nous défaire, hein, mais pour nous dire que Dieu jette tous nos péchés, et pas n'importe où. Il les jette au fond de la mer, hein, qui nous montre, alors naturellement tout dépend de la profondeur des océans, mais toujours est-il que nous pouvons imaginer que c'est dans les plus grandes profondeurs que Dieu a jeté, que Dieu jette encore, eh bien, toutes les iniquités, tous les péchés, tous les défauts de l'humanité, et au fond de la mer. Et il nous est bien précifié, c'est que non seulement il jette, mais il oublie. Et ça, c'est important. C'est jeter, c'est oublier. Dans la vie quotidienne, hein, il y a des choses dont nous nous sommes débarrassés parce qu'elles sont inutiles, parce qu'elles sont obsolètes, parce que finalement, eh bien, l'usage ne nous intéresse plus, quand je parle des objets naturellement. Et nous nous en débarrassons et puis après on les oublie. Hein, on a complètement oublié que nous avions peut-être ces objets-là, nous les avons remplacés par d'autres. Alors quand il s'agit des objets ou des choses, ça n'a pas vraiment une grande importance, à moins que sentimentalement nous y sommes attachés. Mais on s'aperçoit que quelquefois on jette aussi les jeunes. Et ça c'est une autre affaire, parce que bon, c'est pas tout à fait la même question. Mais il est bien dit, Dieu jette, hein, et il oublie totalement le mal, nos fautes, nos erreurs. Il les oublie, c'est-à-dire qu'il ne revient pas. Nous, nous avons du mal à oublier. Parce que, quelquefois, lorsque nous avons été humiliés, ou blessés, ou contrariés, enfin bon, toutes sortes de sentiments comme ça, hein, qui sont propres à l'humanité, eh bien, c'est vrai qu'il reste quelques cicatrices, quelques blessures, et nous avons du mal, finalement, à passer dessus. Mais là, eh bien, Dieu nous dit, et ce n'est pas rien que le péché de l'humanité, ce n'est pas rien que la chute, finalement, de l'homme dans le jardin d'Éden, parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous traînons eh bien encore cet héritage. C'est une cohorte de rappels à travers la maladie, à travers les souffrances, à travers la mort, à travers toutes sortes de choses. Ce n'est pas une petite affaire. Nous minimisons peut-être parce que nous sommes dans un monde dans lequel nous évoluons et puis nous ne connaissons pas autre chose. Mais une chose qui est certaine, c'est que le mal, les défauts, les erreurs des hommes, eh bien, c'est quelque chose qui est conséquent. Et il nous est dit que Dieu les oublie, tout cela. Il les oublie, et non pas parce que nous avons fait nos efforts, parce que nous avons fait des bonnes actions pour compenser le mal que nous avons commis, mais c'est parce que quelqu'un a donné sa vie. Celui qui a plaidé, dont nous avons parlé tout à l'heure, pardonne-leur leurs péchés. Et nous croyons que cette prière universelle, eh bien, est toujours d'actualité. Donc, il oublie totalement. Eh bien, là, la nature, finalement, ce que nous sommes dans une condition, c'est qu'il faut venir à lui, il faut prendre conscience de ce que nous sommes, notre état dans lequel nous sommes, cet atavisme, on l'appelle l'atavisme du péché, parce que bon, voilà, il est attaché à notre nature, mais eh bien, la Bible nous dit que eh bien, c'est oublié du côté de Dieu, c'est oublié, c'est fini, c'est terminé, dans la mesure où l'homme, eh bien là, prend conscience de son état, et qu'il demande pardon. Voilà, c'est tout le message de la repentance qui présuppose, eh bien là, finalement, eh bien, ces dispositions de Dieu pour nous pardonner. Donc nous avons notre part à faire, la repentance, demander pardon, lui parler finalement, eh bien, de telle ou telle situation, et de pouvoir s'ouvrir à lui, non pas d'aller vers un homme pour lui raconter notre vie, et puis... Parce que les hommes ne peuvent pas pardonner d'autres hommes, je veux dire, au niveau religieux, hein, au niveau de ce contexte. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu est prêt à nous entendre, est prêt véritablement eh bien, à la comprendre. Et non seulement comprendre, mais lui, il a déjà la solution, il a déjà le remède à ce mal. Et il oublie, il jette, il oublie. Et une chose qui est véritablement fondamentale dans notre réflexion, c'est qu'ils disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Voilà. Quand vous jetez quelque chose dans l'océan, eh bien, vous avez après, la mer se referme, hein, les vagues vont continuer, le vent, et puis il ne restera rien du tout. Vous ne voyez plus. Il y a tout à disparaître naturellement, comme s'il n'avait jamais existé. Et ça, c'est quelque chose de rassurant, de savoir qu'aujourd'hui, je peux venir avec une atroce culpabilité, et de savoir que si je m'approche de Dieu, eh bien, je lui en parle de mon problème, je lui demande pardon, je me réfugie dans ce que Jésus a accompli à ma place pour mon pardon, pour ma délivrance. Et c'est comme s'ils sont enfouis, hein, ces péchés, ils sont submergés dans les profondeurs de la mer, et Dieu ne les voit plus. C'est formidable. Tout cela, ça disparaît. Tout cela, eh bien, n'existe plus. J'aimerais faire une remarque au passage. C'est que, et elle est importante, me semble-t-il, parce que je voudrais développer la compréhension du pardon de Dieu, de la démarche de l'homme à travers la repentance, à travers ce traitement de guérison qui nous affranchit de la culpabilité. C'est cette remarque qui est la suivante, c'est qu'à l'instant où Dieu nous pardonne, nous n'avons plus de passé. Pour Dieu, notre passé n'existe plus, pour nous, naturellement. Mais nous n'avons plus de passé, mais nous avons seulement un avenir. Et ça, c'est formidable. Quel soulagement, quelle délivrance, seulement un avenir, comme un recommencement, comme si nous écrivions sur une page blanche. Alors ce sont des idées très simples, très peut-être puériles, diront certains, mais je voudrais le marquer en profondeur, quelque chose qui reste dans notre mémoire, c'est qu'au moment où Dieu a jeté, alors il oublie, et ses péchés disparaissent, et nous n'avons plus ce passé-là. Notre passé restera toujours à notre mémoire, il restera toujours ce que nous sommes, nous ce que nous avons été, ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous deviendrons. Ça, c'est le fait, finalement, eh bien, de la vie. Mais le passé mauvais, nos fautes, à travers toute notre histoire où peut-être nous avons eh bien là, des tâches, eh bien, il faut se dire que ce passé-là a complètement, totalement disparu. Et nous pouvons nous dire en nous-mêmes, et ce n'est pas seulement pour nous assurer, mais c'est une réalité de la foi, une réalité, une conviction, nous avons seulement un avenir, et c'est comme si nous prenions une feuille blanche, où Dieu a nettoyé tout, une feuille toute neuve, et que là nous commençons à réécrire finalement une nouvelle histoire. C'est cela, hein, la pensée jetée, oubliée et disparaître en ce qui concerne eh bien, finalement notre état spirituel ou notre état moral. Ça c'est important. La Bible nous offre trois exemples ou trois histoires de vie de pardon divin. Il y en a des centaines. On ne va pas naturellement eh bien, s'aventurer dans cette lecture ou dans ce commentaire, mais trois leçons, trois histoires où véritablement Dieu a pardonné. Le premier personnage, qui est très connu, hein, puisque c'est un personnage de l'Ancien Testament, c'est Samson, qui s'est perdu dans ses égarements sensuels. Et nous savons que c'était un homme qui avait été choisi par Dieu. Il avait été mis de côté, même avant sa naissance. Il avait été prédestiné, nous pourrions dire. Alors, le mot prédestination est quelque chose de très profond. Mais toujours est-il que lorsque l'on revient à l'histoire simple de Samson, on s'aperçoit que, eh bien là, il est né par révélation, en quelque sorte, des parents qui l'ont élevé, qui l'ont aimé. Dieu l'avait doté de toutes sortes de capacités, de facultés extraordinaires, puisque s'il n'était peut-être pas un géant par la taille, il était un géant par les dons que Dieu lui avait donnés. Hein, il avait une force extraordinaire, en tous les cas, sous cet aspect-là. Et il s'était perdu par, on pourrait dire, la frivolité, ou tout simplement en ayant oublié Dieu, en ayant oublié ses dons, peut-être par un certain orgueil de ses capacités, de ses facultés que Dieu lui avait données, dont il s'était enorgueilli, en disant, eh bien moi je suis un homme fort. Mais il y avait un problème, il y avait une, on pourrait dire, eh bien là, un défaut à la cuirasse, où il avait son talon d'Achille. C'était le problème, justement, de ses égarements de sensualité. Alors, il s'est éloigné de plus en plus de Dieu. Et puis, nous voyons que ça s'est terminé avec cette histoire de Delila, que nous connaissons, dont l'histoire nous est rappelée. Et là, nous voyons que le brave Samson, quand il a voulu véritablement faire un coup de force pour se délivrer lui-même, ce qui n'est finalement eh bien, pas la possibilité des hommes, il s'est trouvé complètement ficelé, retenu par des cordes, et ses ennemis ont réussi à le vaincre. Et il s'est fait prendre donc par ses ennemis, c'était les Philistins, et ils l'ont traité comme ils ont pensé devoir le traiter, mais on sait très bien qu'il y a aussi eh bien, cette manifestation du pardon de Dieu dans la vie de Samson. Même si sa fin a été tragique, même si les choses ont été poussées à l'extrême, même si dans la fin de sa vie il a connu des souffrances, en raison de la cruauté de ses ennemis, mais une chose qui est certaine, c'est que cet homme a été marqué du sceau, finalement du pardon de Dieu. D'ailleurs, son histoire a été consignée dans la Bible, pour nous montrer que Dieu est un Dieu qui pardonne les égarements de la nature humaine, on pourrait dire ça, parce que la sensualité, c'est ça. Il n'avait pas péché parce qu'il avait été un idolâtre ou autre chose, qui est un péché spirituel. Mais bon, voilà, il s'était laissé emporter, et puis conduit par le mensonge, par toutes sortes de choses. Il avait cru, eh bien, à des choses qui ont été sa souffrance, en quelque sorte. Le deuxième, c'est Jonas. Jonas est un personnage un petit peu à l'image de Samson, mais différemment, sous un autre aspect, c'est que Dieu lui avait dit « Jonas, tu iras ici ». Et Jonas a dit « Moi, j'irai de l'autre côté. Moi, je vais faire ce qui me plaît. Voilà, c'est bien gentil, Dieu, mais moi, tu me demandes d'aller voilà, visiter et faire de l'évangélisation dans la ville de Ninive. Moi, ça ne me dit rien d'aller voir ces païens, ces gens qui sont des barbares, ces gens qui sont des idolâtres. Eh bien, moi, tu me demandes d'aller à droite, moi, j'irai à gauche. » Alors, bon, on connaît l'histoire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais toujours est-il que, voilà, il s'est éloigné de Dieu et il a désobéi finalement à cette, on pourrait dire, cette mission que Dieu lui avait donnée, une grande mission, hein, parce que c'était quand même le salut de tout un peuple, d'une ville, hein, et lui, il se disait, moi, pas question, hein, moi, je suis un nationaliste, je suis un juif, si je dois apporter le message de Dieu, ça sera aux juifs, mais pas aux autres. Bon, voilà, donc, ça existe encore aujourd'hui, hein, les Jonas. Mais toujours est-il qu'il s'est trompé dans sa mission par désobéissance et par obstination. C'est une autre forme, on a parlé de la sensualité de Samson, la chair. Là, maintenant, c'est plutôt une question de refus d'obtempérer, d'obéir, et de dire, eh bien voilà, moi je fais comme cela me plaît, et je pense que des Samson ça existe, des Jonas ça existe, et nous nous apercevons que là aussi il y a une compassion de Dieu qui est manifestée, hein, parce que bon, il va y aller quand même, à Ninive, il va prêcher le message de Dieu, que Dieu est un Dieu vivant, qu'il n'a rien à voir avec tous ces dieux de l'idolâtrie païenne, mais toujours est-il qu'à un moment donné, eh bien, toute la ville de Ninive va se convertir. Oh, surprise! Faut-il que tous les prédicateurs refusent d'obéir à Dieu pour que ça marche après, et que véritablement il y ait des centaines et des milliers de personnes qui se convertissent? En principe, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne, normalement. Alors, donc, il s'est trompé dans sa mission, et à ce moment-là, eh bien, malgré qu'il avait lutté contre la pensée de Dieu, contre l'appel de Dieu, contre la vocation que Dieu lui avait donnée, eh bien, Dieu va marquer d'une manière tout à fait tangible, tout à fait manifeste, eh bien, cette histoire, là, en ouvrant les portes des cœurs, et les gens vont se convertir. Ce qui montre bien que, et là, il y a eu aussi, eh bien, la manifestation du pardon de Dieu. Et puis le troisième personnage, nous on le connaît bien parce qu'il habite une grande partie de l'espace du Nouveau Testament, du livre des Actes des Apôtres par exemple, ou des Évangiles, c'est Pierre. Pierre avec la trahison et le reniement de Jésus. Ce n'était pas une petite affaire. Pierre avait été appelé, on peut dire que c'était un homme remarquable, il aimait Jésus, mais la vanité peut-être, l'orgueil, cette assurance qu'il avait de lui-même, eh bien, l'a amené à trahir Jésus et à abandonner Jésus au moment où véritablement c'était la passion de Christ, hein, la passion à ce moment-là. Et nous nous apercevons que Pierre a eu cette attitude, je ne connais pas cet homme, voilà, je n'ai jamais vu cet homme, donc le reniement se fait sous cet aspect. Et nous voyons que, eh bien, à un moment donné, lorsqu'il va voir que Jésus est entre les mains de ses adversaires, de ses ennemis, de ceux qui veulent le tuer, Pierre va regarder, à un moment donné, il va croiser probablement le regard de Jésus. Hein, c'était dans la maison du sacrificateur, du grand prêtre à Jérusalem, et là, les deux regards vont se confronter, et Pierre va véritablement fondre dans son cœur. Il va s'apercevoir de son erreur, de sa faute, de sa trahison, de cette chose abominable d'avoir trahi Jésus. et il va se mettre à pleurer. Hein, c'est ce regard va l'amener, eh bien, justement, à comprendre que c'était une grande faute. Samson était une faute. Et Jonas, c'était aussi une faute. Et puis, également, Pierre, c'était quelque chose de terrible, parce que c'est au cœur même de toute l'histoire biblique. Hein, au moment de la Passion, au moment où Jésus va être crucifié, il avait été choisi 3 ans auparavant, Pierre. Il était devenu un homme, finalement, qui avait été enseigné dans la foi. Et au dernier moment, il va dire, non, moi, je ne connais pas cet homme. Et il va se repentir. Ses pleurs, à la différence de Judas, sont des pleurs de repentance. Et nous nous apercevons, et ça c'est justement le caractère même de la faute de ces 3 hommes, entre autres, et de bien montrer que Dieu est un Dieu. Nous l'avons lu, hein. Il est dit, mais là, il est question justement de... tu as encore de la compassion pour nous, et tu es un Dieu de miséricorde. Tu prends plaisir à la miséricorde. Samson a eu droit à la miséricorde de Dieu. Jonas a eu droit à la miséricorde de Dieu par les résultats qu'il a ensuite pu constater. Et puis Pierre aussi, parce qu'on sait très bien qu'après il y a eu une confrontation entre Jésus ressuscité et Pierre. Et nous voyons qu'il s'est passé quelque chose où vraiment Pierre a eu la conviction, l'assurance, que malgré la faute énorme, immense, inimaginable qu'il avait commis de trahir Jésus, nous nous apercevons qu'à ce moment-là, eh bien, il va avoir l'assurance. Et ça se fera dans ce qui nous est rapporté dans l'évangile de Jean, à travers la fin des autres évangiles, dans le livre des Actes, où il y a véritablement un pardon complet et total. La trahison de Pierre. Et aussi étonnant que cela paraisse, Dieu leur a pardonné à ces hommes-là, comme à bien d'autres, et mieux encore, il les a utilisés ensuite, mis à part Samson, parce que lui, il y a laissé la vie. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est ça la question. Et peut-être pour ceux qui sont sous le poids d'une culpabilité en disant « mais je ne peux rien faire pour l'œuvre de Dieu, je ne peux même plus prier, parce que Dieu ne va pas m'écouter, je ne veux même pas chanter de cantique, je ne peux même pas, quelque part, eh bien, m'associer à la vie des autres chrétiens, parce que mon fardeau est trop grand ». Et on fait un peu comme Thomas, on se met à l'écart, et à ce moment-là, on se prive de la bénédiction, on se renferme dans une sorte de dépression. Et ce qui est extraordinaire, et ce qu'il faut bien penser, c'est que Dieu leur a pardonné ce que nous venons de démontrer à travers ces 3 exemples, mais encore davantage, c'est qu'il les a utilisés pour sa gloire. C'est formidable. Jonas a eu certainement après, je suppose, une carrière, il a eu de quoi s'occuper. Hein. Quand vous avez des 120 000 personnes qui se convertissent, c'est déjà pas mal, hein. ça occupe quand même. Hein. Et puis, Pierre a eu aussi une mission extraordinaire dont nous allons parler dans quelques instants. Et à ces hommes-là, eh bien, Dieu leur a confié ensuite de grandes missions. Et ça, c'est extraordinaire. Et de savoir que si quelquefois nous tournons en rond parce que nous disons « mais il y a tant d'années, j'ai commis ceci ». J'ai fait telle faute, je suis passé par telle situation que je n'aurais pas dû, j'ai fait du mal, j'ai dit ceci, j'ai détruit cela, ou celui-ci, ou celle-là, d'une manière ou d'une autre, peu importe. Alors aujourd'hui, je suis complètement je suis hors course, je me suis disqualifié moi-même, c'est faux. Regardez l'exemple qui nous est donné, où Dieu, eh bien, que ce soit les uns et les autres, il va leur confier de grandes missions. Jonas, Pierre est devenu, on pourrait dire, sans qu'il y ait une hiérarchie particulière, mais probablement un des premiers parmi les apôtres. Hein, il a eu une mission extraordinaire, il a été appelé l'apôtre, finalement, eh bien, des Juifs, l'apôtre du peuple d'Israël. Hein, et ça, c'est quelque chose de formidable. Donc, quelquefois, il faut peut-être revenir et comprendre que lorsque si nous nous approchons de Dieu, Dieu nous pardonne les péchés, il les a jetés au fond de la mer, tous les péchés, il les a jetés au fond de la mer, il les a jetés, il les a oubliés, et ils ont disparu. Alors pourquoi nous les ramènerions à la surface? C'est ça la question. Et que nous nous priverions de vivre la vie chrétienne, de vivre une vie morale, normale, de vivre une vie d'épanouissement, parce que finalement nous n'arrivons pas à passer là-dessus. Nos fautes ont été expiées à travers le sang de Jésus. C'est simplement, je n'ai pas à donner quoi que ce soit, je n'ai simplement qu'à offrir ma foi, en sachant que quelqu'un a pris ma place, que Jésus a pris ma place. Alors, être utilisé par Dieu, même si quelque part notre passé est lourd et chargé, peu importe. Vous avez l'exemple de Moïse, par exemple, qui s'est mis en colère, qui a tué un homme. Meurtrier, Moïse, attention, hein. Sauveur du peuple, mais meurtrier quand même. Hein, c'était quand même quelque chose. Ben, quand on voit que, bon, après une préparation qui a quand même duré un certain temps, parce que c'était quand même un tempérament. Moi, je comprends un petit peu des hommes comme Pierre ou comme Moïse, qui étaient quand même des sacrées personnalités. Il hein, faut quand même le dire. Mais son empressement, sa condition d'être tellement sûr de lui-même, prince d'Israël, il a quand même tué un homme. Et après des années de préparation, des années de désert, des années, on pourrait dire, de purification, eh bien, il est devenu quand même le chef du peuple. Hein. Le chef, le prince d'Israël qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte et qui est devenu un personnage tellement marquant dans l'histoire biblique. Hein. Donc, Dieu ne l'a pas rejeté, même tout meurtrier qu'il était. Jacob était un spécialiste du mensonge. Lui, il ne pouvait pas ouvrir la bouche sans raconter des histoires, sans se vanter lui-même, sans mépriser les autres, ou faire des coups, des mauvais coups à tous ceux qu'il pouvait rencontrer et qui pouvaient le gêner dans ses affaires personnelles. Ça, c'est Jacob. Eh bien, Jacob a été quand même l'homme providentiel que Dieu s'est choisi pour tout simplement, eh bien là, être le personnage que nous connaissons. Il a eu une carrière ensuite. Moïse, après sa faute, a eu une carrière. Nous pouvons dire que Jacob a eu une carrière. Élie, c'est autre chose, Élie. Un brave homme qui avait des dons, qui avait reçu une mission ô combien difficile de ramener le peuple d'Israël de l'idolâtrie auprès de son Dieu. Et lui a connu à un moment donné, il a connu des choses extraordinaires, Élie. Hein, le feu qui descend du ciel, toutes sortes de choses formidables dans les prodiges, en les miracles, et à un moment donné, il passe par le découragement. Et dans le découragement, on fait des bêtises. Dans le découragement, on est capable de faire des choses comme Pierre, parce que c'était aussi le découragement quand il a vu Jésus sur la croix. Ça, c'est clair, hein, quand Jésus qui a été saisi par ses adversaires. Le découragement, ben oui, mais quelquefois, eh bien, dans le découragement, nous pouvons commettre des erreurs. Eh bien, Élie, finalement, était un grand homme de Dieu, hein, malgré son découragement. Alors, David, c'était un peu comme Samson. Hein, il était roi, il pouvait se dire, moi, je fais ce que je veux, et puis, à moi la vie. Et David a commis aussi des choses, bien que ce soit un homme où il nous est dit que David était l'ami de Dieu. C'était véritablement l'homme qui était la proche, finalement, du cœur de Dieu. Et puis, ben, c'était un homme comme les autres, hein. Et un jour, il a commis, voilà, dans l'oisiveté de son temps, alors qu'il aurait dû certainement être dans une autre situation, mais il s'est trouvé, finalement, à ne plus savoir quoi faire. Et puis, bah, il a porté les yeux sur une femme, Bathsheba, et a commis un adultère. C'était aussi une faute, on pourrait dire, à caractère sensuel. Et bien, David n'a pas perdu sa royauté pour autant. Eh oui, il s'est repenti, tous, de toute façon. Il n'y a pas de pardon sans repentance, il faut quand même le redire ce matin. Mais toujours est-il que David a gardé son royaume quelque part. Oh, il n'a plus été le même après. Il y a des affaires quelquefois dans notre vie qui sont caractérisées par des fautes, des erreurs et puis des trahisons, enfin tout ce que l'on veut, le péché en quelque sorte, où là, eh bien, Dieu nous permet que nous passions par là, hein, que nous nous repentions et que nous repartions. Et ça, c'est la miséricorde. On a vu, hein. Tu prends plaisir, Dieu, à la miséricorde, à faire grâce. Et puis, naturellement, il y a aussi le problème de Thomas qui, lui, ça ne rentrait pas. Thomas, il se dit, c'est pas possible, il est mort, c'est pas possible qu'il soit ressuscité. Allez pas me raconter des histoires. Et il est resté le pauvre Thomas. Pendant à peu près, je ne sais pas moi, 8-10 jours comme ça, tous ses anciens amis, disciples, parce qu'ils avaient partagé quand même 3 ans ensemble, tous ses amis lui disaient, mais nous avons vu Jésus, il est ressuscité, nous l'avons touché, nous l'avons vu, nous avons pu même partager là quelque chose avec lui, un repas, et puis toutes sortes de choses. Nous avons même reçu sa bénédiction, que la paix soit avec vous. Et Thomas disait, maintenant pas question, vous ne ferez pas croire, finalement, qu'un mort y ressuscite. Bon, ben, Thomas est débuté sur quelque chose, et ça c'est un péché aussi. C'est une faute. Après avoir connu la vérité, après avoir connu Jésus, avoir mangé avec Jésus, après avoir entendu les paroles de Jésus, qui étaient des paroles de communication de foi, et de confiance. Lui, il disait « Non, je ne croirai pas ». C'est un grand péché, l'incrédulité. D'ailleurs, je pense que l'incrédulité est à la base de tous les autres péchés. Et pourtant, il s'est retrouvé confronté avec Jésus ressuscité. Jésus lui a dit « Mais écoute, tu refais ton coin. Bah, regarde, tu vois mes mains, tu vois mon côté, tu vois mes pieds, etc. Vas-y, touche, touche-moi ». Et là, le pauvre Thomas, il n'a pas pu résister. Hein. C'était atomique, hein, on pourrait dire. Il a fondu, il a dit « Mais mon Seigneur et mon Dieu !» Il s'était repenti, vraiment, à ce moment-là. Et je crois que bah, Dieu lui a fait grâce. Il avait reçu le pardon de Dieu, parce que, véritablement, eh bien, malgré son endurcissement, son incrédulité, eh bien, il avait connu la miséricorde, il avait vu que Dieu prend plaisir à la miséricorde, et que ses péchés, son péché d'incrédulité avait été jeté au fond de la mer. Et il a regardé, là où on l'avait jeté, son péché, il n'y avait plus rien du tout. Et le péché était descendu au tréfonds de l'océan. C'était fini. Dieu avait oublié tout cela. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tous ces hommes que nous avons vus et nous avons passé en revue, eh bien, ont une histoire de faute grave. Oui, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas minimiser d'une manière ou d'une autre. Et puis, bon, il y en a d'autres, hein, naturels. Mais ils ont connu aussi une histoire de pardon. Et le pardon, c'est un soulagement. Le pardon, c'est véritablement une guérison, c'est un remède. C'est quelque chose qui... C'est un poids qui est enlevé de dessus nos épaules. Dans le psaume 32, il est question, c'est David, qui après son histoire, justement, précisément avec Bathsheba, eh bien, écrira ce psaume, ce poème, et il dira « Mais béni soit l'homme qui reçoit le pardon de Dieu, dont l'iniquité eh bien, n'est pas retenue, etc. etc. » Il en parle. Et il avait vécu quelque chose de formidable. Quel soulagement d'être pardonné! Ouais. Quel soulagement! Peut-être, enfant, nous avons tous fait des petites bêtises. Et peut-être qu'à un moment ou un autre, eh bien, dans notre conscience d'enfant, nous avons été dire ce que nous avions fait comme bêtise. Et puis, papa ou maman, eh bien, nous ont dit « Allez, ça y est, on n'en parle plus, c'est fini ». Alors, si les parents humains sont capables de faire cela, notre Père divin, lui, est capable de faire encore au-delà. Et puis, nos péchés d'adultes sont quand même autrement que des péchés d'enfant, quoi qu'il en soit. Donc, ils ont connu, finalement, le pardon, et finalement, ils ont servi à la gloire de Dieu. Si nous sommes bloqués, si nous sommes coincés avec un problème de culpabilité, quelque chose de récurrent, quelque chose où nous butons en disant « Mais j'ai fait telle et telle chose, c'est impardonnable, Dieu ne pourra jamais me pardonner, les hommes ne pourront jamais passer sur ma faute. » Alors, il faut que vous sachiez que peut-être c'est le jour et c'est l'instant, c'est le moment de se mettre devant Dieu et de lui dire « Eh bien, Seigneur, je te demande pardon. Au nom de Jésus-Christ, je crois que Jésus a pris ma faute. » Parce qu'il n'y a pas de faute trop grande. Il n'y a pas d'erreur qui soit insurmontable pour Dieu. C'est ça, justement. Mais c'est vrai que nous avons été faussés par la religion, la tradition, par la culture religieuse. Alors, il y avait des péchés, des grands péchés et des petits péchés, véniels, mortels. Mais le péché, il est mortel de toute façon, quoi qu'il en soit. Et une chose qui est certaine, c'est que, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, Dieu peut véritablement faire de nous des hommes soulagés, des hommes délivrés, des hommes blanchis. D'ailleurs, à un moment donné, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans les Épîtres, il dit « Mais vous avez été lavés, vous avez été blanchis, vous avez été nettoyés par le sang de Jésus-Christ. » Alors, c'est de la théologie, le sang de Jésus-Christ. Mais c'est l'image qui est derrière pour nous montrer que c'est Jésus qui a payé le prix. Moi, je ne peux pas me réformer, je ne peux pas me pardonner moi-même, je ne peux pas finalement eh bien, me changer. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus a fait à notre place ce que nous ne pouvions pas faire. Et si j'invoque eh bien, le nom de Jésus auprès de mon Père Céleste va me pardonner parce que Jésus a été donné pour moi. Il a été donné pour le monde entier et tous les pécheurs qui existent, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas quelque chose là où on fait une baguette magique, une baguette de fée, mais c'est quelque chose qui est une réalité, finalement. C'est la foi. C'est de croire, c'est de faire confiance. Et ces hommes ont servi à la gloire de Dieu parce que Dieu a oublié leurs erreurs et les a jetés au fond de la mer. Je reviens toujours sur ma pensée. C'est fini. Si je jette quelque chose là, dans le port de Saint-Nazaire, hein, où il y a quand même sur le chenal, eh bien, certainement quelques profondeurs pour laisser passer les tankers et puis les gros bateaux, je suppose qu'il y a quand même quelques dizaines de mètres. Eh bien, moi, une fois à partir du moment où j'ai jeté, c'est fini, je ne vois plus rien. C'est terminé, hein, c'est l'image que je souligne encore. Et il ne s'en souvient plus. Les hommes rappellent les erreurs des autres. Ah oui, mais même s'il a demandé pardon, on se souvient qu'il a fait ceci. Et ça, ça peut nous suivre toute notre vie, et ça peut détruire des réputations, ça peut détruire finalement des carrières et des vocations, enfin, toutes sortes de choses. Mais Dieu ne s'en souvient plus. Et si Dieu nous pardonne, nous avons le devoir de nous pardonner nous-mêmes. Et c'est là le problème. Voilà. C'est ça la question. Je sais que Dieu m'a pardonné. Alors devant cette chose récurrente qui me revient, qui me trouble dans ma conscience, qui obnubile ma pensée, et à chaque fois que je me retrouve dans telle ou telle situation, dans telle ou telle circonstance, ça me revient. Ah oui, mais ça m'attriste. Je dis, mais j'ai fait ça. Eh bien, il faut savoir que nous devons nous pardonner nous-mêmes. Et c'est la force de notre conviction dans le pardon de Dieu que je trouverai la force, moi, de me convaincre que je suis pardonné. Et que finalement, eh bien maintenant, c'est fini tout ça. Oui, nous avons le devoir de nous pardonner, et en conséquence, de pardonner aux autres. Et là, c'est aussi une autre affaire. Ça fait partie finalement, eh bien, de toute la vie relationnelle, la vie sociale, la vie familiale, enfin la vie de tout ce que nous pouvons avoir nos semblables, qui quelquefois nous en fait beaucoup de mal, et où nous butons, et que nous avons finalement, eh bien là, énormément de difficultés. Ça, c'est logique. Et puis, je terminerai par une chose toute simple. J'aimerais mettre devant nous, pour synthétiser un peu notre message, c'est qu'il y a 5 raisons qui sont des fausses raisons de faire remonter à la surface nos péchés qui ont été pardonnés. Parce que le péché, ça flotte. Même s'il n'a pas de boîte de sauvetage, il flotte. Ouais. Vous l'enfoncez, il remonte. Allez. Il y a 5 raisons que j'aimerais brièvement, 5 fausses raisons de faire remonter à la surface et tout notre passé, toute notre histoire, quel que soit eh bien, de quoi elle a été entachée, elle est au fond. Il ne faut pas s'amuser à la faire remonter. Ce n'est pas la peine d'apprendre à nos fautes et à notre histoire à nager. Hein. Elle est coulée tout simplement. D'abord, il y a l'incrédulité. On en a parlé pour Thomas. L'incrédulité nous persuade que croire au pardon est trop facile. Oui, bon, j'ai fait ça, mais c'est trop facile. C'est vrai que si nous regardons la façon dont les hommes traitent la question du pardon, c'est « je te pardonne, mais j'oublie pas ». Ça, c'est vrai. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'incrédulité nous dit que ce n'est pas possible. Dieu, c'est trop facile tout ça. Et il ne te pardonnera jamais, parce que c'est trop grave. Voilà. Souvenons-nous de Judas. Judas a eu la même proposition que Pierre de se repentir et Judas n'a pas voulu. Donc, lui, il a coulé avec ses péchés. Pierre est remonté, et on en a dit quelques mots, mais Judas, lui, il est parti avec la pierre au cou et là, il est parti dans le fond de la mer. Si quelqu'un scandalisait un de ses petits, il faudrait mieux lui arracher une pierre, une meule de moulin. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour eux. Et c'est l'incrédulité pour Judas. Autant Pierre nous donne la démonstration de la foi dans le pardon, de la foi dans un retour vers Dieu malgré sa trahison, eh bien, Judas nous donne le contraire. Ça, c'est l'incrédulité. Ensuite, ce sont les regrets, les remords d'avoir dit, d'avoir fait ou d'avoir commis ce que nous savions défendu. Nous savions qu'il ne fallait pas le faire, mais nous l'avons fait quand même. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça, c'est tout. Hein. C'est l'expérience douloureuse où on se brûle, tout simplement. Mais on apprend aussi. Et si seulement je ne l'avais pas fait, mais malheureusement c'est fait, et les regrets et les remords, ça ne fait que nous enterrer, ça nous fait que finalement on n'avance pas. Ouais. Le contraire du regret du moi, du remords, c'est l'espérance, c'est finalement l'espoir, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc l'incrédulité, le regret, le remords, c'est la frustration aussi, hein. Une autre fausse raison, c'est la frustration de l'échec du genre. J'ai pourtant fait tout ce que j'ai pu, j'ai échoué. Et là, à ce moment-là, la culpabilité est récurrente. Ben oui, mais on l'a fait quand même. Mais bon, Dieu est capable, même si on l'a fait quand même, Dieu est capable de passer de cela. Et nous, ce n'est pas la peine de nous enfermer dans une prison de frustration. Il y a des millions et des millions de gens qui vivent dans la frustration en permanence. Ils se sont donné des limites en disant « je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai commis cela ». Mais le pardon de Dieu, il est total et nous pouvons reprendre une nouvelle vie. Alors, dehors la frustration, et puis il y a l'apitoiement sur soi. Ah oui, c'est vrai, personne ne peut et ne veut me comprendre. Eh oui, alors on se dit, ben voilà, je garde mon secret. On a tous des secrets, hein, des jardins secrets que nous cultivons, et Dieu nous dit, arrête, hein, c'est bon, c'est fini maintenant, Jésus est mort il y a 2000 ans pour toi, t'as qu'à croire que finalement, maintenant, le remède à ton mal, il a été donné, et que la solution à ton problème, il est apporté. Alors arrête de t'apitoyer sur toi. Bien sûr que tu as fait cette faute, bien sûr que tu as fait cela et tout ça, mais moi, je ne m'en souviens plus. Alors arrête de t'en souvenir et de le cultiver. Que les mauvaises herbes, hein, ça pousse, hein. Oh, ça pousse, ça c'est sûr. Renfermement sur soi-même. Et pour finir, le blocage. C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas aller plus loin. La vie s'arrête à un moment donné. Je ne pourrai jamais m'en sortir avec ce que j'ai fait. Eh oui. Et là, on touche les portes du désespoir. Hein. À ce moment-là, il n'y a plus d'évolution. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après, il n'y a plus rien. On est en stationnement. Hein. Bah, c'est terrible parce que c'est pas ce que Dieu veut. Hein. Bon, quand je relis le texte, hein, il ne garde pas toujours sa colère, même si nous avons mal fait. Je reprends le texte de Michée. Hein. Car il prend plaisir à la miséricorde. La miséricorde, c'est faire grâce à qui mérite d'être puni. C'est ça le mot, l'explication. À qui mérite d'être puni, Dieu fait grâce. Il aura encore compassion de nous, l'amour. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, vous rendez compte? On peut s'imaginer Jésus à la croix, hein. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés et tu témoigneras de la fidélité, de sa fidélité. C'est extraordinaire. Je terminerai tout simplement par la lecture d'un texte parce que bon, je pense que nous avons parcouru l'Ancien Testament, nous avons cherché dans le Nouveau Testament, mais il y a un texte très beau qui est écrit par Jean l'apôtre, hein, qui nous dit ceci dans son épître, première épître au verset 7, simplement pour mémoire, hein. Il nous a dit, mais si nous marchons dans la lumière, hein, comme Jésus lui-même est lumière, comme Dieu lui-même est lumière, si nous marchons dans la lumière, dans la vérité, pas la peine de se voiler la face en disant, j'ai fait, j'ai pas fait, non. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Écoutez bien la nouvelle, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est pas la religion, c'est pas le confessionnal. C'est pas d'aller voir tel ou tel homme, on peut toujours en parler avec les hommes, pour que l'on puisse prier ensemble. Mais une chose qui est certaine, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Nous sommes purifiés. Vous êtes purifiés à partir du moment où nous recourons eh bien, au sacrifice de Jésus, au sacrifice expiatoire de Jésus, et que mon passé, quel qu'il soit, il n'y a pas de grand et de petit péché. Le péché, c'est le péché, mais il est pardonné. À travers ce que Jésus... Il est virtuellement pardonné. Il est potentiellement pardonné. C'est déjà fait, et ça fait 2000 ans. Qu'est-ce que nous attendons? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, l'obstination dans les faux raisonnements dont nous avons parlé, nous nous séduisons nous-mêmes, parce que nous pensons que nous sommes voilà, au-dessus des autres. Et la vérité n'est point nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, fidèle et juste, et pour nous purifier de toute iniquité. Non seulement il nous pardonne, mais il nous purifie, il nous lave, et nous sommes propres. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir, et sa parole nous pointe en nous, c'est ce que nous avons ouvert. Nous avons ouvert sa parole, alors à ce moment-là, elle est là pour véritablement rentrer en nous. Puis, il termine, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point, par ces questions qui reviennent là, que nous avons vues, ces fausses raisons, et puis ces combats et ces luttes complètement qui ne sont que des manifestations de notre vanité, hein, ça ne sert à rien. Et si quelqu'un a péché, alors à ce moment-là, nous avons un avocat. Ouais. Un avocat, c'est celui qui défend. C'est celui qui va plaider pour nous, même si nous sommes coupables, ben justement. Et nous avons un avocat auprès du Père, et cet avocat, il a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ le Juste, parfaitement juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui a été qui a donné sa vie. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est pour tous les hommes. Alors, qui vous soyez en tant qu'auditeur, hein, ou tout simplement vous suivez ces messages, hein, vous les voyez en vidéo, et une chose qui est certaine, peut-être dans l'intimité de votre maison, de votre chambre, où vous vous battez avec vous-même, vous vous battez avec votre histoire, avec votre passé, sachez une chose, c'est que Dieu vous dit aujourd'hui, il vous dit ce matin, que tout a été solutionné. Qu'il suffit tout simplement d'un mouvement volontaire de notre part, tout simplement de croire que eh bien, le remède a été donné à nos maux. Et qu'ainsi, Seigneur, eh bien, nous puissions maintenant nous trouver devant toi, soulagés, dégagés, en sachant, Seigneur, que tout cela, eh bien, non seulement c'est derrière nous, mais tout cela a complètement disparu. C'est le message du salut en Jésus-Christ, c'est le message du pardon de Dieu. Et il n'y a rien de plus beau, finalement, que de trouver en Dieu eh bien, celui qui est rempli de miséricorde et de grâce. Nous allons prier quelques instants, et chacun, là où il se trouve, dans peut-être un temps de méditation que nous avons partagé, dans ce temps de méditation, peut-être un temps de prière qui suit, eh bien, nous puissions nous tourner vers le Seigneur en disant, Seigneur, je te remets mes fardeaux, je te remets ma malheureuse conscience qui me tourmente, je te remets mes pensées qui m'agitent, et je les dépose devant toi, en sachant, Seigneur, que toi, tu m'as donné la solution. Et la chose la plus simple, eh bien, c'est tout simplement de confesser que Jésus est celui qui nous pardonne complètement et totalement. Et ce pardon nous donne maintenant un libre accès de paix, de nous réjouir, de joie, de tranquillité intérieure, à travers eh bien, ce qu'il a accompli, et que nous pouvons nous approcher du trône de la miséricorde et de la grâce. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que nous croyons que nous vivons dans une société qui est une société souvent désordonnée. Désordonnée, Seigneur, c'est vrai dans ses apparences extérieures. Nous le voyons, Père éternel, dans en effet toutes ces manifestations, qu'elles soient politiques, sociales, qu'elles soient d'une façon ou d'une autre, dans la vie des gens, dans la vie des hommes. Oui, Seigneur. Mais nous croyons, Père éternel, que cette désorganisation, cette guerre, ces luttes, cette dualité, Seigneur, eh bien, elle est beaucoup plus profonde, elle se situe au niveau des consciences, au niveau des âmes, au niveau des sentiments du cœur. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et te remercier, parce que le plus beau et le plus grand de tous les merveilleux messages qui existent sur la terre, à l'adresse de l'humanité, c'est de savoir que Dieu est rempli de miséricorde, il est rempli de bonté, il est rempli de cette fidélité qui nous vaut aujourd'hui, Seigneur, qu'à cause de la justice de Jésus, dans laquelle je crois, j'ai mis toute mon espérance, eh bien, je suis pardonné, je suis libéré, je suis blanchi, lavé, justifié, oui, Seigneur. Et tu as posé, Seigneur, sur ma vie un non-lieu, c'est-à-dire que aujourd'hui, je peux ressortir innocent de tout cela, parce que Jésus est innocent. Et je crois à l'innocence de Jésus. Ce n'est pas la mienne, c'est la sienne que j'endosse. Et je te remercie et te bénis. Merci Seigneur pour cette métaphore, parce que tu as pris mes péchés, tu les as jetés au fond de la mer, tu les as oubliés, et aujourd'hui ils sont complètement disparus. Alors je peux vraiment me tourner vers toi, en sachant Seigneur que tu me donnes eh bien, une nouvelle vie, un nouveau départ, peut-être une nouvelle vocation, une nouvelle carrière. Merci mon Sauveur et mon Dieu, merci pour les exemples bibliques où des hommes ont chuté, où des hommes sont tombés, mais des hommes ont été relevés parce qu'ils sont venus avec un cœur repentant en croyant que Dieu est un Dieu de miséricorde. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.